Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manila qui dans la présentation de cette édition du mercredi 28 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. Amnesty International dénonce l'ampleur des destructions dans les régions anglophones du Cameroun. Enquête ouverte en Tunisie sur la formation islamiste ENADA et deux autres partis pour des soupçons de financement au sud de l'étranger lors de la campagne électorale de 2019. Après l'Algérie, l'Afrique du Sud dénonce la décision de la Commission de l'Union africaine accordant à Israël un statut d'observateur au sein de l'organisation panafricaine. Washington met en garde les talibans, avertissant que l'Afghanistan risque de devenir un état paria. Au même moment, Pékin reçoit les rebelles afghans. Dans 10 minutes, vous suivrez également notre journal des JO de Tokyo. Mais d'abord, les nouvelles du monde. Au Cameroun, l'ONG Amnesty International a publié ce mercredi un rapport sur le conflit séparatiste qui oppose depuis 4 ans des bandes rebelles et l'armée dans les zones anglophones. Le rapport dénonce notamment l'ampleur des destructions des maisons et villages. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
Les nouvelles recherches d'Amnesty International s'appuient notamment sur l'analyse d'images satellitaires. Elles révèlent que les combats entre les groupes séparatistes anglophones et l'armée se sont poursuivis sans relâche, les civils étant les plus touchés par les homicides illégaux, les enlèvements et la destruction généralisée de maisons et de villages. Dans le nord-ouest, l'arrondissement de Noua, près de la frontière nigériane, a été particulièrement touché par les violences, souligne le rapport. Entre le 22 et le 26 février 2021, au moins 4200 personnes ont été déplacées de 7 villages de Noua à la suite d'attaques de groupes d'autodéfense Peul, au cours desquels au moins 8 personnes ont été tuées. Toujours en février, au moins 4 villages de cet arrondissement ont été détruits ou incendiés selon Amnesty. Dans cette même région, les communautés Mbororo, des peuls nomades à l'origine, souvent accusés de soutenir les autorités, payent un lourd tribut. Depuis 2017, 162 d'entre eux ont été tués, environ 300 maisons ont été incendiées, 102 personnes ont été enlevées, entraînant le versement de près de 270 000 euros de rançon, assure Amnesty, qui pointe aussi les exactions commises par des groupes armées Peul auxquelles sont rattachés les Mbororo. En 4 ans, ce conflit a fait plus de 3500 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile, selon Amnesty.
Au moins 8 personnes, dont un militaire, ont été tuées dans deux attaques distinctes survenues dans la région du Kivu, dans l'est de la RDC, a-t-on appris mercredi de sources locales et de l'armée. La presse ivoirienne salue unanimement la rencontre de mardi entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, les deux protagonistes de la crise post-électorale de 2010-2011, en attendant la traduction politique concrète de cette réconciliation. Alassane Ouattara a salué son jeune frère, un ami depuis des décennies, tandis que Laurent Gbagbo s'est réjoui d'avoir parlé fraternellement, amicalement, avec celui qu'il appelle désormais « Monsieur le Président ». En Tunisie, la société civile met en garde contre tout prolongement illégitime de la suspension du Parlement, alors que la justice du pays annonce aujourd'hui avoir ouvert une enquête sur les financements d'ENADA, parti d'inspiration islamiste majoritaire à l'Assemblée. Jacques Aristide.
Plus de 48 heures après le coup de force du président Kais Saied, le parquet tunisien indique que les investigations ont été entamées sur les financements étrangers des campagnes électorales en 2019. Elles couvrent aussi l'acceptation de dons dont la source est inconnue. Outre ENADA, l'enquête concerne également le parti Kalb Tounes, fondé par l'homme d'affaires Nabil Karoui, et la petite formation Aïch Tounzi de la mécène Olfa Terras Rambourg. Pour justifier sa prise de pouvoir, le chef de l'État invoque des périls imminents auxquels était confrontée la Tunisie. Il a suspendu le Parlement pour 30 jours et limogé le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, de même que les ministres de la Défense et de la Justice. Et de nouvelles mesures hier, le procureur général a été écarté de la justice militaire, tandis que des conseillers gouvernementaux et chargés de mission ont été démis de leurs fonctions. Des organisations influentes de la société civile plaident en faveur bord d'une feuille de route avec un calendrier détaillé. Dans un texte commun, elles mettent en garde contre tout prolongement illégitime de la suspension du Parlement et appellent le président Saïed à respecter le délai d'un mois mentionné dans l'article 80 de la Constitution sur lequel il s'est appuyé.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a appelé mercredi à la nomination rapide d'un Premier ministre en Tunisie. Monsieur Le Drian a aussi insisté sur la nécessité de préserver le calme et l'état de droit et de permettre un retour rapide au fonctionnement normal des institutions démocratiques tunisiennes, a-t-elle ajouté. L'Afrique du Sud dénonce la décision prise la semaine dernière par la Commission de l'Union africaine d'accorder à Israël un statut d'observateur au sein de l'organisation panafricaine. Une victoire diplomatique pour l'État hébreu qui, selon les deux parties, devrait notamment lui permettre d'aider le continent à lutter contre le Covid-19 et le terrorisme. Le point avec Nani Tetalani.
Dans une déclaration sans équivoque, Pretoria, qui a assuré l'année dernière la présidence tournante de l'Union africaine, se dit consterné par la décision injuste et injustifiée de la commission de l'organisation d'accorder à Israël ce statut d'observateur. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères soutient que la commission l'a prise unilatéralement sans consulter les États membres. Elle est encore plus choquante en cette année où le peuple opprimé de Palestine a été persécuté par des bombardements destructeurs et la poursuite de la colonisation illégale sur ses terres, estime le ministère. Pour l'Afrique du Sud, tant qu'Israël n'est pas disposé à négocier un plan de paix sans condition préalable avec les Palestiniens, il ne devrait pas avoir ce statut d'observateur. Pretoria compte interpeller Moustapha Kimahamat, le président de la commission, et espère que la question sera discutée entre chefs d'État et de gouvernement. L'Afrique du Sud soutient la cause palestinienne depuis la fin de l'apartheid. Elle a dégradé son ambassade en simple bureau de liaison à Tel Aviv. La Palestine a déjà le statut d'observateur à l'Union africaine, où elle compte d'importants soutiens.
Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis pour le Proche-Orient, Joe Hood, a affirmé mercredi que la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, territoire disputé, restait inchangée au cours d'une visite dans le royaume chérifien. L'Afrique du Sud va envoyer 1495 militaires au Mozambique pour soutenir Maputo dans sa lutte contre les actes de terrorisme et les extrémistes violents. Le Botswana a déjà annoncé l'envoi de troupes et hors de la région, le Rwanda s'est engagé le 9 juillet à déployer un millier de soldats au Mozambique. Quelques 5000 réfugiés éthiopiens devraient arriver au Soudan voisin dans les prochaines 48 heures, a annoncé mercredi à l'AFP un responsable soudanais. Des milliers de personnes continuent à fuir la région du Tigré pour échapper au combat. Le vice-président de Guinée équatoriale, Théodorine Obiang, a été définitivement condamné mercredi par la justice française pour s'être constitué frauduleusement un patrimoine luxueux dans un volet de l'affaire des biens mal acquis après le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation. La Tanzanie a lancé mercredi sa campagne de vaccination contre le Covid-19. La nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan a largement révisé la politique du défunt président John Magufuli. Madame Hassan, 61 ans, a notamment créé un comité d'experts chargé de conseiller le gouvernement et a voulu montrer l'exemple en étant la première à recevoir le vaccin mercredi lors d'une cérémonie officielle.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a lancé mercredi à New Delhi un avertissement sur un risque de régression démocratique. La relation entre nos deux pays est l'une des plus importantes au monde, a-t-il déclaré avant de partir au Koweït. L'Afghanistan risque de devenir un état paria si les talibans reprennent le pouvoir par la force, ont mis en garde aujourd'hui les États-Unis. Dans le même temps, la Chine a accueilli les rebelles afghans contre une promesse de ne pas servir de base arrière pour des attentats. Claire Morizibourg.
La progression éclair des talibans en Afghanistan à la suite du retrait des troupes américaines et de l'OTAN a été évoquée par Anthony Blinken lors de sa visite en Inde. Un Afghanistan qui ne respecterait pas les droits de son peuple, un Afghanistan qui commettrait des atrocités contre son propre peuple deviendrait un état paria, a averti le chef de la diplomatie américaine à New Delhi. L'Inde, fidèle soutien du gouvernement afghan, redoute qu'un retour au pouvoir des talibans n'offre un refuge à des groupes opposés à ses intérêts. Dans le même temps, une délégation des talibans s'est entretenue ce mercredi à Tianjin, dans le nord de la Chine, avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. La délégation talibane était menée par le numéro 2 du groupe et chef de son bureau politique, le mollah Abdul Ghani Baradar. Les talibans ont assuré à la Chine que le sol afghan ne serait pas utilisé contre la sécurité de quelque pays que ce soit.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Get into the game. C'est le moment de suivre notre journal des Jeux Olympiques de Tokyo avec Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Pas de médaille aujourd'hui pour les Africains aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mais la bonne nouvelle vient surtout de la discipline de football où la Côte d'Ivoire et l'Égypte sont qualifiées pour les quarts de finale. Bagassi Koura.
Oui, dans le troisième et dernier match de la phase de poule disputé ce jeudi, la Côte d'Ivoire a fait match nul, un but partout face à l'Allemagne. Tout s'est joué en seconde période. D'abord, un but de Benjamin Henry contre son camp à la 107e minute de jeu a permis aux éléphants de mener au score. Puis, la Mannschaft a égalisé grâce à Edouard Lowen 5 minutes plus tard. Le score final est d'un but partout et permet aux Ivoiriens de finir deuxième du groupe D à égalité de 5 points avec le Brésil qui a battu l'Arabie Saoudite 3 buts à 1. Les deux sont donc qualifiés pour les quarts de finale. L'Allemagne 3e et l'Arabie Saoudite dernière du groupe sont out. Bonne nouvelle aussi pour l'Égypte, les Pharaons ont battu l'Australie 2-0 dans le groupe C et se classent deuxième de la poule. Ils accompagneront donc l'Espagne première en quart de finale. Par contre, l'Afrique du Sud a coulé de nouveau face au Mexique 0-3. Les Bafana Bafana sont éliminés après 3 matchs et 3 défaites. Les quarts de finale sont prévus pour le 31 juillet. La Côte d'Ivoire fera face à l'Espagne et l'Égypte jouera le Brésil.
Merci, Bagassi. En basketball, deuxième sortie et deuxième défaite pour le Nigeria chez les messieurs. Les D-Tigers ont été dominés par l'Allemagne 99-92 dans la discipline de rugby à 7. Messieurs, pas de médaille pour les deux représentants africains dans le match pour la 5e place. L'Afrique du Sud a battu les États-Unis 28-7. Le Kenya, lui, termine 9e après sa victoire face à l'Irlande 0-22. Reverra-t-on Simone Biles aux Jeux Olympiques de Tokyo quelques heures après une soirée à l'issue de laquelle Simone Biles a abandonné son épreuve et évoqué ses difficultés psychologiques? L'Américaine a renoncé au concours général prévu demain. Nanit Talani.
Le suspense n'a pas duré longtemps, au moins pour jeudi. Après une évaluation médicale, Simone Biles s'est retirée de la finale du concours général afin de se concentrer sur sa santé mentale, annonce la Fédération américaine de gymnastique dans un communiqué. Hier, Simone Biles, icône de la gym, a abandonné l'épreuve par équipe après un seul saut, bien en deçà de ses standards habituels. Pour expliquer sa fébrilité et son abandon, celle qui est considérée comme la meilleure gymnaste de l'histoire a fait part de sa détresse psychologique et de la pression qu'elle vit au quotidien. « Je n'ai plus autant confiance en moi qu'avant. » J'ai l'impression que je ne prends plus autant plaisir qu'avant à glisser la quintuple championne du monde du concours général. Une vague instantanée de soutien à Biles s'est ensuite enchaînée sur les réseaux sociaux et l'attaché de presse de la Maison-Blanche, James Psaki, a tweeté « La gratitude et le soutien sont ce que mérite Simone Biles ». L'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, a renchéri « Suis-je assez bonne ? Oui, je le suis ». C'est le mantra que je pratique quotidiennement. Simone Biles, nous sommes fiers de toi et nous t'encourageons. Le Comité international olympique dit être conscient du problème de la santé mentale des athlètes et y travailler. Mark Adams, porte-parole du comité.
Athlete mental health in general has been a big issue for La santé mentale des athlètes et la santé mentale en général est une question importante depuis quelques années maintenant. Elle a pris vraiment de l'ampleur. Le CIO y travaille depuis un certain temps et a mis en place des outils, des séminaires en ligne, etc. L'urgence est devenue évidente avec la pandémie de COVID et nous avons donc beaucoup travaillé sur ce sujet. Au village olympique, en plus de psychologues et autres que nous avons sur place, il y a également une ligne d'assistance à 70 langues qui continuera à fonctionner après les Jeux.
Marc Adams, porte-parole du CIO.
Merci, Sinamix.
Merci, Akuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manakizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. De nouvelles recherches d'Amnesty International, notamment l'analyse d'images satellitaires, ont révélé l'ampleur dévastatrice des destructions causées par un sanglant conflit séparatiste qui oppose depuis 4 ans des bandes armées rebelles et l'armée. C'est ce qu'indique un nouveau rapport de l'ONG internationale publié mercredi. L'analyse d'Amnesty souligne que les combats entre divers groupes armés qui réclament l'indépendance de la partie du pays peuplée par la minorité anglophone et l'armée se sont poursuivis sans relâche, les civils étant les plus touchés par les homicides illégaux, les enlèvements et la destruction généralisée de maisons et de villages. Pour en parler, John Lindon a joint le journaliste auteur Ellie Smith à Douala, au Cameroun.
Je crois qu'ils n'ont pas tous les données, mais il y a globalement, ils ont une certaine perception qui est différente de la réalité. La perception, c'est quoi? Oui, il y a des violences, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une amélioration sur le terrain.
Dans leur rapport, ils disent que les conflits ou les combats se sont poursuivis sans relâche ces derniers mois.
Combat, c'est un peu trop dit. Il y a eu d'abord des combats intra-séparatistes dans les départements de Bouy et dans les départements de Mézam et de la Momoton, entre les séparatistes eux-mêmes, il y a eu beaucoup d'utilisation des explosifs. Ça y a eu mais vraiment les combats frontaux entre les séparatistes et les militaires. Moi, je suis sur le terrain, il n'y en a pas eu beaucoup.
L'un des buts poursuivis par le dialogue, le grand dialogue, tant pour moi, national, qui avait été organisé au Cameroun du 30 septembre au 4 octobre 2019, était justement de trouver une solution à cette situation dans les régions anglophones. Mais, visiblement, la paix tarde à venir. Pourquoi?
Parce que, premièrement, la victoire du grand dialogue était de reconnaître qu'il y avait un problème anglophone. Parce que si vous vous rappelez, 2 ans ou 3 ans avant l'organisation du dialogue national, vous avez même les membres du gouvernement qui refusaient qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Donc d'abord, le grand dialogue, la première victoire est de reconnaître que oui, il y a un problème anglophone. Deuxième chose est que, à moins qu'on est ignorant ou naïf, on ne peut pas croire qu'en 3 ou 4 jours que le grand dialogue a eu lieu, ça devait apporter la fin aux hostilités ou aux violences dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest. Le dialogue, selon nous, est un processus continuel.
L'un des acteurs ou l'un des participants à ce grand dialogue national, c'était le cardinal Christian Toumi, qui disait justement en son temps que quand on veut faire la paix, on fait le compromis. Vous lui consacrez d'ailleurs un ouvrage dessus. Est-ce que les séparatistes sont prêts pour déposer les armes?
C'est ça le grand problème. Tu sais, vous avez la difficulté qui est dans notre conflit au Cameroun, en passant le nord-ouest, le sud-ouest, c'est que d'abord, les séparatistes sont dans beaucoup de camps. Ils se battent d'abord entre eux. Mais pour qu'on ait la paix au Cameroun, il faut que les deux camps, pas uniquement les séparatistes, il faut que les deux camps s'attellent à faire des compromis, comme le cardinal l'avait dit, parce que le cardinal disait toujours à tout le monde qui veut l'entendre qu'il est un fédéraliste et que dans ses veines coule le fédéralisme. Mais il a dit aussi, pour que la paix vienne au Cameroun, comme l'État central veut la décentralisation, il faut qu'on fasse la décentralisation, mais que ça doit être une décentralisation effective. Et l'une des résolutions du grand dialogue était ce qu'on appelle les statuts spéciaux des provinces du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce qu'elle est effective? C'est ça la question maintenant.
Ellie Smith, journaliste et auteur, joint à Douala au Cameroun.
VOA Afrique en direct de Washington.
Mardi soir, l'athlète championne américaine Simone Biles a stoppé sa compétition par équipe aux Jeux Olympiques de Tokyo après un passage raté dans une épreuve. Elle a ensuite expliqué qu'elle devait faire face à ses démons et avoir eu une pression très lourde à gérer ces derniers mois. Comme elle, de nombreux sportifs doivent faire face au stress et à d'autres problèmes mentaux lors de ce type de compétition. Pour en parler, Mohamedou Oumfa, adjoint de Dr Mengem Justine Laure, elle est psychologue psychiatre à l'hôpital Djamo de Yaoundé au Cameroun.
Dans ce type de situation, nous avons deux types de pression. Une pression interne, c'est-à-dire celle que l'individu se fait à lui-même, et une pression externe. La pression interne est fonction de l'histoire de la personne, de ses frustrations, de ses challenges, de ses attentes et de ses objectifs dans sa vie. Et la pression externe, elle est donc fonction de l'entourage, le coach, la famille, le pays. Vous pouvez représenter un pays, vous pouvez représenter un continent. Donc tout ça, ça met vraiment l'individu dans un état de stress, dans une pression.
Alors comment se fait la préparation des athlètes pour une telle compétition pour éviter justement qu'il y ait autant de stress et de problèmes mentaux éventuels?
La préparation dans ce type de compétition est à deux niveaux. Une préparation physique d'abord et une préparation psychologique. Elle se fait plusieurs mois déjà avant la compétition. Sur le plan psychologique, c'est très important de donner toutes les informations, les renseignements sur la compétition. Le site, la ville, le mode de fonctionnement, les participants, l'alimentation, le climat de la ville, du site où on sera. Parce qu'il ne faudrait pas que l'individu soit surpris, qu'il soit perturbé par rapport à ce changement-là. Donc, il doit être préparé à l'avance. Il faut expliquer à l'individu que la pression va monter au fur et à mesure que le temps va passer. Plus on va se rapprocher de l'événement, plus l'individu sera stressé un peu. C'est important, donc, dans le cadre de cette préparation, que l'individu se sente calme, se fasse plaisir, donc identifie ses sources de plaisir sans nuire à autrui. Si c'est danser, si c'est chanter, si c'est la lecture, qu'on le fasse.
Quel rôle peuvent jouer les personnes ou les délégations qui accompagnent généralement les athlètes pour leur équilibre psychologique et mental?
Il faut beaucoup les encourager, avoir une communication positive, être à leur écoute, les rassurer, leur faire plaisir et surtout leur faire comprendre que c'est un jeu et que quel que soit les cas, on est fiers et on sera toujours fiers d'eux.
Et quel autre conseil vous pouvez donner aux athlètes qui participent à ce genre de compétition?
Savoir que le travail est la clé du succès et que l'utilisation de stratégies de gestion du stress ou pour arriver à réaliser des performances comme la prise de substances psychoactives doivent être bannies parce que tous ces éléments n'ont qu'un impact négatif sur notre santé.
Dr Mengem Justine Laure, psychiatre, psychologue à l'hôpital Jamot de Yaoundé au Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM 90.2.
En Afrique du Sud se trouve l'une des régions les plus polluées au monde en dioxyde d'azote et dioxyde de soufre. Les pollueurs sont clairement identifiés. On y dénombre pas moins de 12 centrales à charbon et des dizaines de mines. Parmi les communautés qui vivent aux alentours, un nombre anormalement élevé d'adultes et d'enfants souffrent d'asthme, de sinusite chronique, de problèmes respiratoires. Mais pour des raisons économiques, ils n'ont d'autre choix que de vivre dans cette région toxique. Le reportage sur place de notre correspondante Patricia Huon.
Le Highveld se trouve à l'est de Johannesburg, à un peu plus d'une heure de route. C'est une des régions les plus polluées au monde. Promesse Mabulo est activiste. Elle tente de défendre le droit de sa communauté à respirer en air sain.
We are fighting Nous combattons les injustices environnementales dans notre région. L'air est très pollué parce que nous sommes entourés de beaucoup de centrales électriques au charbon, de mines. C'est pour cela qu'on a nommé cette ville Emalalegna, le charbon, la ville du charbon.
Pas moins d'une quinzaine de centrales électriques et plus de 120 mines opèrent dans la région. Une loi a bien été votée en 2004 pour fixer des limites d'émissions à ne pas dépasser. Mais la compagnie nationale d'électricité, Eskom, a obtenu jusqu'à l'an dernier des dérogations. Quant aux autres, les contrôles sont trop rares pour être coercitifs. Victor Munich est chercheur à l'université de Wits à Johannesburg et militant environnemental.
Elles sont assez peu contrôlées par le gouvernement, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'émissions de dioxyde de soufre et d'autres aérosols et gaz à effet de serre. En plus de ça, il y a de la poussière et il y a aussi des conséquences néfastes sur l'eau dans la région.
Promesse fait régulièrement du porte-à-porte dans la communauté. Elle rend visite à des personnes qui souffrent de problèmes de santé, probablement aggravés par la pollution. Comme Bali, une jeune mère dont les deux enfants sont asthmatiques.
Princesse a eu de l'asthme quand elle avait 3 ans, puis la plus jeune des 5 mois. Et ça s'est aggravé, c'était très sérieux. Les mines ne prennent pas soin des communautés qui vivent autour. Ils pensent que nous ne sommes pas importants. Parfois, il y a des coupures d'électricité qui durent 2 mois. Comment nous survivons? Ils s'en fichent.
Cette année, des ONG ont poursuivi le gouvernement sud-africain en justice. Elles l'accusent d'enfreindre le droit constitutionnel à un environnement sain et réclament des mesures plus strictes. Affaire à suivre dans un procès qui va sans doute durer plusieurs années. Patricia Hulon, de retour du Highveld en Afrique du Sud pour VOA Afrique.
Les législateurs américains ont entendu mardi le témoignage émouvant de 4 membres des forces de l'ordre lors de la réunion inaugurale de la commission spéciale chargée d'enquêter sur les événements du 6 janvier dernier. Ce jour-là, des partisans de l'ancien président Donald Trump avaient violemment tenté de faire annuler les résultats de la présidentielle de 2020. Le panel enquêtera sur le rôle de Donald Trump dans ces émeutes. C'est un reportage de Catherine Gibson. Le récit est de Rosine Munezero.
Au cours des 6 mois qui ont suivi l'attaque des partisans de Trump contre le Capitole ici à Washington, certains républicains ont minimisé la gravité de cette journée. Toutefois, les policiers qui protégeaient le Capitole font une autre lecture de ces événements.
C'était une tentative de coup d'État qui se déroulait au Capitole ce jour-là. Et si cela avait lieu dans un autre pays, les États-Unis y auraient envoyé de l'aide.
Gonel, l'un des 4 agents des forces de l'ordre qui ont témoigné, affirme avoir été brutalement battu par les partisans de l'ancien président. Michael Fanon, agent de la police métropolitaine de Washington, pensait qu'il allait être démembré.
J'ai été traîné hors de la file de policiers et dans la foule. J'ai entendu quelqu'un crier « J'en ai un !» alors que j'étais submergé par une foule violente. Ils ont arraché mon badge et m'ont dépouillé de ma radio. Ils ont saisi des munitions que j'avais sur moi, puis ont commencé à me battre à coups de poing et avec ce qui ressemblait à des objets métalliques durs.
Des injures raciales étaient lancées aux officiers afro-américains. Dan n'en avait jamais fait l'objet en uniforme auparavant.
La foule, peut-être une vingtaine de personnes, s'est jointe au cri de « Bouh, sale nègre ».
Un début émouvant pour le premier jour d'audience publique de la commission spéciale enquêtant sur la pire attaque contre le Capitole des États-Unis en 2 siècles. Mais le plus haut républicain de la Chambre a critiqué la décision de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de retirer 2 de ses choix pour l'enquête.
La présidente Pelosi ne choisira que les personnes de la commission qui poseront les questions qu'elle souhaite. Cela devient une commission ratée et un rapport raté, une imposture que personne ne peut croire.
2 républicains ont défié leur parti pour siéger au sein du panel, dont Liz Cheney, qui a été démise de ses fonctions de direction pour sa critique de Trump. Selon elle, le rôle exact de Trump dans l'incitation à l'émeute devrait faire l'objet d'une enquête.
We must also know what happened
Nous devons également savoir ce qui s'est passé à chaque minute de cette journée à la Maison Blanche. Chaque appel téléphonique, chaque conversation, chaque réunion avant, pendant et après l'attaque.
Le panel qui compte 7 démocrates cherchera probablement à contraindre les anciens collaborateurs de Donald Trump à témoigner dans le cadre de leur enquête sur les émeutes qui ont fait 7 morts. Le troublant témoignage a incité le seul autre républicain du panel à qualifier l'enquête de tournant pour la réputation des États-Unis.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Mandela-Kiza était à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée. À l'écoute de nos programmes.